Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Reporter le Black Friday, ça semblait impensable hier encore. Et bien aujourd'hui, pourtant, plusieurs grands distributeurs se disent favorables à ce report. Et selon les infos d'Europe 1, il paraît que même Amazon y réfléchit.
Être désinfecté avant d'entrer au supermarché, et si c'était l'avenir?
Une grande surface de Saint-Etienne expérimente un portique qui diffuse un nuage de gouttelettes et qui, en prime, prend la température des clients.
Avec le confinement, les arrêts maladie longue durée s'envolent, une hausse de 30%.
L'interrogatoire cet après-midi de Jonathan Daval. J'avais de la colère. De toutes ces années, j'étais humiliée. Oui, je l'ai étranglée pour qu'elle se taise.
Va-t-on manquer d'électricité cet hiver? La question rebondit, le réseau RTE fait planer la menace comme tous les ans.
Et puis Corinne Diacre n'est pas rancunière apparemment. La sélectionneuse des Bleus retient Amandine Henry pour les deux derniers matchs qualificatifs de l'Euro, mais elle promet une explication, les yeux dans les yeux. La Bourse de Paris recule de 0,67% à 5474 points.
Et puis elle ne recule devant rien. Bonsoir Anissa, bonsoir, vous nous avez rejoint pour la tendance météo avec un temps plus clair demain.
Oui, avec beaucoup plus de soleil et des conditions anticycloniques, ça sera assez sympa demain après-midi. Attention, du gros temps sur la Corse et des températures qui continuent de baisser. Je vous détaille tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et la polémique donc autour du Black Friday. Faut-il reporter cette opération promotionnelle comme le réclamait hier Bruno Le Maire? Privilégier la raison sanitaire ou la raison économique? Risquer de se mettre encore davantage à dos les commerçants.
Un Black Friday prévu, on le rappelle, le vendredi 27 novembre. Carole Ferry, est-ce que le ministre de l'économie a été entendu? Est-ce que ce report finalement est envisageable?
Eh bien complètement. Alors je ne vous dis pas que c'est fait, hein, loin de là, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde y réfléchit. Le deal, je vous rappelle, c'est si la grande distribution et les commerces en ligne acceptent de décaler le Black Friday au 4 décembre, alors les magasins physiques pourront sans doute rouvrir dès le week-end du 28 novembre au lieu du 1er décembre. Ils auront donc un week-end de vente en plus avant Noël, mais sans ruer sur les promotions. Alors ce que je peux vous dire, c'est que Bruno Le Maire a eu directement en ligne le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, qui lui a dit « Ok, si tout le monde y va, on décale ». Michel-Édouard Leclerc a tweeté la même chose. « Si c'est une démarche collective, on en fera partie ». Pareil pour le patron de Système U. Puis Cdiscount également a dès le départ dit qu'il suivrait le mouvement par solidarité avec les commerces physiques.
Alors tout ça, c'est très bien, Carole. Sauf que la locomotive, bien sûr, c'est Amazon.
Eh bien oui, mais vous savez quoi? Il paraît que même Amazon, même le géant américain réfléchirait à la question. Jusqu'à présent, c'était hors de question, hein, parce que le Black Friday, c'est une gigantesque machine mondiale chez Amazon. Sauf que là, s'ils sont seuls face aux autres, c'est aussi une question d'image. Enfin bon, il faut encore le feu vert de la maison mère, donc rien n'est fait. Alors vous avez aussi ceux qui avaient lancé leur campagne de pub, imprimé leur catalogue, embauché spécialement du personnel. Mais c'est loin d'être impossible et on devrait en savoir plus.
On a tout compris, même s'il y a eu quelques petites coupures à la fin. Merci en tout cas, Carole Ferry. C'est la magie de la du direct en télétravail. Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Autre information du soir, les nouveaux chiffres, les derniers chiffres de l'épidémie qui pourraient changer la donne en cas de nouvelle flambée. On les attend d'un instant à l'autre. Point presse en ce moment du ministre de la Santé. Olivier Véran, on suit tout ça évidemment pour vous. Alors déconfinement gradué, on aura peut-être des indications dans quelques instants. On vous donnera en tout cas les dernières infos en direct.
Avec le Covid, en attendant le vaccin, il faudra sans doute encore, pendant plusieurs mois, adapter notre quotidien. On le sait, avec des contraintes sanitaires, cet avenir différent, tout le monde s'y prépare, et notamment les magasins, justement.
Oui, dans la Loire, à Saint-Etienne, un hypermarché teste un prototype, une sorte de portique désinfectant, Jean-Luc Boujon.
Oui, ça s'appelle la Sanibox, ça ressemble effectivement à un portique d'aéroport et c'est installé juste à côté du portillon d'entrée du supermarché. Les clients l'utilisent ou pas, ce n'est pas une obligation, en tout cas une hôtesse leur explique à quoi ça sert et comment ça marche.
Madame, est-ce qu'on vous a expliqué le fonctionnement de notre cabine? Nous venons d'installer ça, donc vous vous présentez devant la cabine.
Il y a donc trois étapes, voilà, d'abord une caméra prend votre température. Ensuite, vous mettez du gel dans vos mains. Enfin, vous passez sous le portique et là, vous êtes brumisé et désinfecté, explique Anne-Claire Bonnet, la directrice de l'Intermarché Saint-Étienne-Bellevue.
On passe dans la cabine, on fait un demi-tour sur soi. La brume qui est pulvérisée est 100% naturelle, faite à base d'eau. L'idée, c'est qu'elle fasse tomber les particules et que les UV détruisent ces particules. C'est la certification qu'a donnée l'ARS Santé. Ce pourquoi aussi je me suis laissée séduire. Je trouve que c'est plutôt à l'heure actuelle quelque chose de bien, aussi pour le personnel qui est très exposé par rapport à cette crise sanitaire. Du coup, j'ai voulu aussi protéger mon personnel.
Voilà, selon la directrice, 80% des clients acceptent de jouer le jeu, à l'image de Monique.
C'est c'est une précaution en plus, une idée de sécurité. Donc pour nous, c'est une bonne solution.
Ça voilà. Sécurise un peu les
courses. Voilà, ça sécurise un peu les courses.
Coût de l'investissement, 10 000 euros, mais la directrice du supermarché estime que cela en vaut la chandelle. D'autant que la technologie de cette Sanibox est française. L'entreprise est basée dans les Alpes-Maritimes.
Et donc, qui sait, ça va peut-être se généraliser. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et ça se passe à Saint-Étienne, dans cet hypermarché.
On les avait déjà constatés lors du premier confinement, les dégâts psychologiques liés à la crise sanitaire.
Le baromètre annuel Malakoff Humanis livre un premier éclairage sur les conséquences concrètes au niveau de l'absentéisme des salariés, avec une très forte augmentation des arrêts maladie longue durée, en hausse de 30%, des arrêts d'une durée moyenne de 94 jours, un peu plus de 3 mois, et donc un lien direct avec le confinement. Reportage Hélène Terzian.
Avec le deuxième confinement, c'était travail et maison. Il y avait à côté, j'avais pas beaucoup d'à côté.
Ce confinement, ça a été la goutte de trop. Hassen, animateur en centre de loisirs de 42 ans, est en arrêt maladie, anéanti par la solitude et la pression au travail.
C'est pesant parce que l'école dans laquelle je travaille, on n'a pas de moyens. Les activités sont très limitées avec toutes ces normes sanitaires. Même si je travaillais, à part un week-end sur deux où je voyais mes filles, je pense que c'est l'isolement et l'ambiance générale qui m'a tué à petit feu. Quoi.
Anxiété, surmenage, burn-out. Entre janvier et septembre, le taux d'arrêt maladie pour troubles psychologiques a doublé. Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation chez Malakoff Humanis, alerte. Toutes les catégories de travailleurs y sont exposées.
Il y a d'abord ceux qui sont venus travailler sur site et qui ont eu peur potentiellement d'être contaminés. Il y a les salariés qui sont en chômage partiel, pour qui la peur de perdre leur emploi est un facteur de stress. Et puis les télétravailleurs qui ont vu leur vie pro et leur vie perso se mélanger.
Des arrêts de travail pour troubles psychologiques souvent plus longs que les autres et que les employeurs craignent de voir se multiplier.
Le reportage d'Hélène Terzian.
Et on en parlera tout à l'heure dans le Club des idées, le grand débat à partir de 19h15. Comment garder la positive attitude et ne pas broyer du noir? Les réponses tout à l'heure donc. Dans l'actualité également, la proposition de loi sur la sécurité globale. Face à la polémique autour de l'article 24, le ministre de l'Intérieur propose d'introduire un amendement pour garantir la liberté de la presse. On y reviendra également dans votre journal, Isabelle, de 19h.
Un ultimatum inédit, celui du Conseil d'État à propos du réchauffement climatique. La plus haute juridiction administrative donne à la France 3 mois pour justifier ses efforts climatiques et sa volonté de tenir ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Et comme chaque hiver, à la même époque, cette mise en garde du réseau RTE qui gère la distribution de l'électricité, gare, nous dit-on, à la pénurie en cas de grand froid.
Élise Dangean, ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir des coupures, sauf qu'en réalité, ça n'arrive jamais. Pourquoi cette menace récurrente?
Eh bien parce que pour RTE, mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, sur la décennie, aucune coupure d'électricité n'a été réalisée pour des questions d'approvisionnement, mais ça n'empêche pas le gestionnaire de tirer régulièrement la sonnette d'alarme. Car il faut dire qu'on a un parc de production assez tendu, notamment depuis la mise à l'arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim cette année. Par ailleurs, on attend toujours l'EPR de Flamanville. Épreuve de cette tension, le recours depuis septembre aux centrales à charbon que la France s'est engagée à supprimer d'ici 2022, car on manque de réacteurs nucléaires en état de marche, explique Jean-Paul Roubin, directeur d'exploitation de RTE.
Normalement, au début de l'hiver, on a les réacteurs nucléaires qui sont au maximum disponibles. Cette crise sanitaire a bouleversé ces plans de maintenance. EDF a fait un énorme travail pour permettre le retour d'un maximum de réacteurs au cours de l'hiver. Il en reste encore un certain nombre à reconnecter au réseau, donc il y a une incertitude.
C'est en février que la situation devrait être la plus tendue, mais pas de panique, les coupures locales ne seront utilisées qu'en dernier recours et ne dépasseront jamais 2 heures consécutives.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On s'intéresse au procès de Jonathan Daval. Au lendemain de son malaise, il a donc cette fois pu être entendu par la cour d'assises de la Haute-Saône cet après-midi. Et il a reconnu que oui, il a bien eu l'intention de tuer sa femme Alexia.
Une version glaçante, Arthur Elmbaché. Vous avez suivi cette audience au cours de laquelle il a donc détaillé le déroulé de cette fameuse journée.
Oui, au cours d'une audition éprouvante, moment le plus difficile depuis le début de ce procès, la voix fluette de Jonathan Daval, les larmes de Jonathan Daval et à quelques mètres de lui les larmes des parents d'Alexia. L'accusé raconte cette soirée du 27 octobre 2017. Alexia arrive dans le salon, elle me propose une relation sexuelle, je m'y oppose, je savais qu'avec mon problème d'érection, j'allais pas pouvoir le faire, combler ma femme. C'était humiliant, elle me fait des reproches, elle me dit que je la désire plus. Moi, Comme d'habitude, je fuis parce que je sais que ça va partir en dispute. Je prends les clés de la voiture, dit-il. Elle me les reprend. On s'est donné des coups, on s'est poussé. Je l'ai plaqué contre le mur pour lui reprendre les clés de la main. Encore des insultes, et là, elle m'a mordu le bras. J'ai pété un câble, ça m'a mis hors de moi. J'étais en rage, j'ai fait cocotte minute, j'ai débordé, dit-il calmement. Il continue son récit. Je lui ai poussé plusieurs fois la tête contre le mur avant de lui donner des coups violents. Pour qu'elle se taise, dit-il. Et après, la strangulation, je l'ai saisi par le cou, j'ai serré. Je pourrais pas vous dire combien de temps, et quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai lâché. Le président de la cour demande « Est-ce que c'est la mort que vous vouliez ?» Ben, oui. Qu'elle se taise à jamais ? Ouais, ouais. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort. Ensuite, il raconte la crémation du corps. Entre deux sanglots, il dit qu'il a transporté Alexia comme un vulgaire sac à patates, dit Jonathan Daval, qui explique « Mettre le feu à un corps, c'est pour effacer les traces. À l'heure actuelle, j'ai encore du mal à admettre ce que j'ai fait, dit-il. C'est dégueulasse. »
Récit glaçant, en effet. Arthur Elmbaché en direct de la cour d'assises de la Haute-Saône, et le verdict est attendu sans doute demain soir.
Les sports à présent, Isabelle, et une Française championne d'Europe.
La jeune judoka Shirin Boukli, sacrée donc championne d'Europe des moins de 48 kilos à 21 ans seulement à Prague. C'était son premier championnat international.
En foot, Amandine Henry rappelée donc chez les Bleus. Après ses critiques pourtant contre la sélectionneuse Corinne Diacre.
Oui, on en avait parlé sur Europe 1. Hein. La capitaine et milieu de terrain avaient eu des mots très durs sur le management. Eh bien, Julien Froment, ces mots, Corinne Diacre, elle les a entendus. Hein.
Oui, elle a entendu la complainte d'Amandine Henry, mais Corinne Diacre n'est pas du genre à étaler ses états d'âme par médias interposés. La technicienne a donc préféré calmer le jeu.
Pour moi, c'est pas que c'est pas un problème, c'est un problème. Effectivement, il faudra régler les choses. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est l'équipe de France et surtout... Le match à venir, je suis vraiment concentrée là-dessus.
Et le match à venir, c'est l'Autriche. Le 27 novembre prochain, les Bleus joueront leur qualification pour l'Euro 2022. Mais cet enjeu sportif est passé totalement en arrière-plan. 90% des questions ont tourné autour de l'interview donc donnée dimanche dernier par Amandine Henry à nos confrères de Canal+. Et face à ce qui ressemble à une fronde, eh bien Corinne Diacre a rappelé qu'elle avait le soutien de son président, Noël Le Graët, mais aussi d'une partie des joueuses. Elle ne compte pas démissionner. « Je suis toujours debout », a-t-elle martelé. Amandine Henry, lanceuse d'alerte du mal-être des Bleus, reste la capitaine pour ce rassemblement. Pour autant, Corinne Diacre n'oublie pas. Une grande explication aura lieu les yeux dans les yeux dans les murs du château de Clairefontaine lundi prochain à l'occasion de retrouvailles qui s'annoncent pour le moins électriques.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Julien Froment qui a un super suite pour vivre heureux, vivons. Voilà, c'est un slogan d'actualité. Merci de nous le faire partager mon cher Julien.
Avec plaisir.
À tout à l'heure Isabelle, 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce des éclaircies pour demain.
Pour vivre heureux, vivons sous le soleil effectivement. Et bien
c'est
demain
pas mal aussi, ça.
Nous en aurons avec toujours pas mal de brouillard, attention, hein, des nuages bas sur toute la moitié nord du pays en début de journée. C'est dans le sud-ouest et au bord de la Méditerranée que le temps sera le plus agréable le matin. Attention aussi, si vous nous écoutez sur l'île de Beauté en Corse, nous avons une dégradation pluvio-orageuse qui vous apporte des pluies soutenues et du vent fort, surtout sur la Haute-Corse. Donc soyez prudents, demain ça va durer toute la journée. Dans l'après-midi, vous le disiez Julien, plus d'éclaircies sur une grande partie du pays, nous avons des conditions anticycloniques. Le soleil sera donc au rendez-vous. Il n'y a qu'en Bretagne et en Normandie dit que le ciel sera un petit peu plus couvert. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane se calment mais soufflent encore bien demain. Et puis les températures, eh bien elles baissent avec des petites gelées en Auvergne et sur le nord-est demain. 2 à 11 degrés le matin et seulement 7 à 18 degrés demain après-midi. Nous aurons 9 degrés.
Entre 7 et 18, voilà. Il y a une grosse marche.
7 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Paris et 18 à Toulon.
18 à Toulon, comme toujours, dans
comme
le sud,
d'habitude.
Au bord de la Méditerranée, ils ont de la chance. Merci Anissa. Europe 1.